Alors nous allons prendre la lecture dans Matthieu au chapitre 28 et du verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, nous venons de lire donc les 4 derniers versets de l'évangile de Matthieu. Sur ces 4 versets, je ne vous dirai pas tout ce que l'on pourrait certainement en dire. On ne peut pas tout dire. Et cela n'est pas utile. Les disciples qui ont écrit les évangiles n'ont pas non plus tout écrit de la vie de Jésus. Par exemple, concernant la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus, Matthieu et Marc nous en parlent en 20 versets, Luc en 53 versets et Jean en 56. La numérotation en versets et chapitres, bien sûr, a été ajoutée ensuite. Et donc, dans l'évangile de Jean, il y a 56 versets qui sont répartis sur 2 chapitres. Les évangélistes racontent tous la vie de Jésus, mais pas tous de la même façon. Et c'est une bonne chose. S'ils s'étaient accordés pour écrire la même chose, en choisissant ce qu'il fallait dire ou ne pas dire, ce serait litigieux et suspect. Chacun dit ce qu'il a vécu, ce qu'il a retenu, sans édulcorer le message. Ce n'est pas un roman à l'eau de rose, ni un cours d'histoire revisité. En ce moment, on parle de la Chine qui efface certaines archives et qui veut éliminer certains pans de son histoire. D'autres ont voulu le faire à propos de l'Holocauste. Beaucoup de pays essayent de réécrire l'histoire pour ne voir que leur grandeur, ce qui fait leur avantage. Les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit simplement, sans effet littéraire, sans emphase, sans lyrisme, sans ajouter de suspense. Ils ont simplement décrit ce qu'ils ont vu ou reçu comme témoignage, par exemple pour Luc. Ce sont des témoins. Ils n'ont pas caché la réalité, les incompréhensions, les désaccords, les doutes des disciples eux-mêmes. Cela est vraiment un signe d'authenticité. Et nous en avons un exemple ici au verset 17. Donc, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Alors on pourrait dire, pourquoi laisser cette phrase ? Mais quelques-uns eurent des doutes. D'autant que Matthieu ne nous en dit pas plus. Est-ce que certains disciples n'en ont pas cru leurs propres yeux ? Est-ce qu'ils ont cru vivre un rêve éveillé, un songe? Mais les évangiles se complètent et Jean nous donne au moins une partie de l'explication. En Jean 20, versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Quelle confusion pour Thomas. Quelle prise de conscience aussi. Celui qui se trouve en face de lui voit tout. Il entend tout. Il est Seigneur, il est Dieu. Quel enseignement pour nous! Heureusement que Matthieu a laissé cette petite phrase. Elle sert à nous interroger. N'avons-nous pas parfois des doutes? C'est l'occasion pour le Saint-Esprit de nous rappeler cet enseignement du Seigneur, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Les évangiles ne nous disent pas tout, mais suffisamment pour que nous croyions. Et c'est ce que nous dit Jean au chapitre 20, verset 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Croyez, chers amis. Croyons toujours. Frères et sœurs, même dans les moments où de nouvelles questions se posent. Le verset suivant nous donne l'occasion de nous affermir dans la foi. C'est le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Thomas a dû reconnaître et dire « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est l'accomplissement de la prophétie de Daniel, le prophète Daniel. Daniel au chapitre 7, versets 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Jésus s'est appliqué cette appellation « le Fils de l'homme » à plusieurs reprises. Fort probablement, Jésus a utilisé aussi ce passage quand il a expliqué aux disciples sur le chemin d'Emmaüs tout ce qui le concernait dans les Écritures. Un petit extrait nous aide à comprendre ce qui s'est passé juste après la résurrection du Christ. Cela se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, versets 16 et 17. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Après cela, donc, Jésus est donc monté vers son Père, selon ce que dit Daniel. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, vers Dieu, et il reçut de lui la domination, la gloire et le règne. Cette prophétie est accomplie, car depuis 2000 ans, des hommes de toutes langues le servent. Et ensuite, Jésus est revenu vers ses disciples. Il a pu dire à Thomas, « Mets ta main dans mon côté, car il avait été glorifié. » Il a pu dire aux disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, car il venait d'être intronisé. » Jésus règne sur tous les hommes, morts ou vivant. C'est ce que dit l'apôtre Paul en Romains 14, 9, car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Pierre nous dit aussi dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 22, il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Avez-vous peur de quelque chose ou de quelqu'un? Votre Sauveur règne. Il est tout puissant. Lisons encore dans Éphésiens au chapitre 1, versets 20 à 23. Il l'a déployé, c'est-à-dire, si on pense au verset suivant, Dieu a déployé sa force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, c'est-à-dire à l'époque de l'apôtre Paul, mais aussi dans les siècles à venir, dans notre siècle, dans tous les siècles. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et Paul aussi, aux Colossiens, dit, je lis la fin du verset, Christ est tout et en tous. Est-ce bien la réalité dans notre vie, dans votre vie? Christ est-il bien tout? Christ est le chef. Rien de ce que nous pouvons vivre ne lui échappe. Il est vainqueur Quel encouragement, frères et sœurs, quand nous sommes dans la difficulté, quand nous nous posons des questions, Christ est vivant, Christ est vainqueur, Christ est le chef. Et il est tout, et il doit être tout pour nous et en nous. Si nous lisons la suite encore, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que Jésus a dit à ses premiers disciples, il le dit aussi à nous qui le sommes aujourd'hui. Premièrement, allez. Cela peut nous sembler difficile, c'est vrai, mais c'est à nous d'aller vers ceux qui ne connaissent pas le salut en Christ. Si nous attendons qu'ils viennent d'eux-mêmes, nous risquons d'attendre longtemps. L'Église a une mission d'évangélisation qui doit rester donc l'action prioritaire. Deuxièmement, faites des disciples. Bien entendu, pour faire des disciples, il faut déjà l'être soi-même. Comment demander à un autre d'être ce que nous ne sommes pas ? Paul dit aux Corinthiens, chapitre 11, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Nous prêchons, mais nous donnons aussi l'exemple. Comme Jésus l'a fait avec ses disciples et comme ils l'ont fait à sa suite. Jésus demande des disciples. Le Seigneur nous a sauvés, il ne veut pas que des sympathisants, il ne veut pas que des adhérents à une religion ou à une communauté. Disciple donne le mot discipline. Le disciple suit la discipline. Il suit les règles données par son maître, qui, souvenons-nous-en, n'est rien moins que le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous voyons actuellement, mais ça on le savait déjà, comment les hommes ont du mal à accepter les règles imposées et combien rapidement ils les transgressent et partent dans des excès. Finalement, c'est pas si nouveau que ça. Le disciple, humblement, accepte de vivre selon les règles que son maître, qui a reçu tout pouvoir, lui enseigne. Il sait aussi que, même si cela contrarie parfois ses plans, cela est pour son bien, car Christ est tout. Quand on nous confie une responsabilité, on peut le voir de deux façons. Soit comme une charge, ou soit comme un honneur. En fait, je pense que c'est les deux à la fois. On ne peut pas avoir les honneurs sans avoir la charge. Ou si je le dis autrement, on ne peut pas désirer les honneurs et refuser la charge. Les deux vont ensemble. Paul a dit ceci aux Corinthiens, au chapitre 9, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Que ce soit pour vous qui êtes disciples de Christ un honneur de le servir en annonçant gratuitement son évangile. Dans le verset suivant, Jésus nous dit ce qu'est un disciple. Matthieu 28, 20. Et enseignez-leur à... Pardon. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça que nous devons faire, c'est ça que nous devons être. Jean chapitre 15, versets 10 à 17. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Rendez-vous compte un peu combien de personnes voudraient être les amis d'un chef d'État, d'un président. Le roi tout-puissant nous appelle ses amis. Si nous faisons ce qu'il nous commande. Et ce qu'il nous commande, c'est de nous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, quel honneur d'être son disciple et de le servir. Quel plus grand privilège et honneur d'être appelé son ami. Il faut nous le rappeler régulièrement et méditer sur ce que cela implique. Voyons le dernier verset, Matthieu 28, 20, la deuxième partie. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'oublions pas, nous avons lu tout à l'heure dans Daniel, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc, Jésus est bien toujours là. Il nous voit, il nous entend comme il voyait et entendait Thomas. Si nous confessons que Jésus est avec nous, nous confessons qu'il vit avec nous et observe toutes nos actions. Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Notre vie est comme un livre ouvert devant Dieu. Nos paroles doivent correspondre à nos actes. La vérité doit nous sonder. Quand nous prenons le repas du Seigneur, nous lisons que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est une réalité qui doit nous guider chaque jour, que chacun s'éprouve soi-même. Le deuxième sens de ce verset, c'est que Jésus est avec nous, toujours à nous secourir dans nos besoins. En Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Restons donc dans sa communion, dans sa grâce, et rappelons-nous que si le Seigneur est avec nous, il est aussi pour nous. Il veut nous sauver. Alors, nous sommes faibles, nous savons, nous chutons parfois, mais le Seigneur veut nous sauver. Soyons simplement vrais, honnêtes devant lui. Romains 8, 31, 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Eh bien, frères et sœurs et amis, que chacun doit soit encouragé et réconforté par ces paroles. Amen.